Bonjour à tous. Ça va ? Ça va. Ça m'a toujours fait rigoler quand j'entendais des prédicateurs s'excuser parce qu'ils allaient plomber l'ambiance. Ben, ce matin, je suis désolé, c'est à mon tour. Je vais vous casser un peu l'ambiance. Est-ce qu'on peut afficher le premier slide, s'il vous plaît ? Aujourd'hui, je vais vous parler de la souffrance. Vous savez, quand j'ai été appelé par le Seigneur en 2013, c'était une année très spéciale pour moi. Une année où tout ce que j'avais voulu construire pendant très très longtemps, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas perdue, la seule chose que j'aurais bien aimée, mon travail. Tout le reste, c'est tombé. Et à ce moment-là, toutes les graines qui ont été plantées quand j'étais plus jeune, ont germé et ont éclos. Et à ce moment-là, j'ai décidé de suivre le Seigneur. Et à ce moment-là, j'ai cru que ma vie allait être un long fleuve tranquille. J'ai cru que la souffrance n'existerait plus et que je serais toujours dans la joie d'être dans la présence de mon Dieu. Mais je n'avais pas lu la Bible. Je ne connaissais pas encore ce qu'était le chemin où on suit Jésus. Et pour ça, j'aimerais vous lire quelques versets dans Jean 16, versets 31 à 33. « Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent, mais l'heure vient, elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais puisque je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Je suis allé voir un peu ce que Jésus voulait nous dire par « affliction ». Je suis allé chercher le mot grec. Je suis désolé pour mon accent grec, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Klipsis. Klipsis. Ça veut dire pression, oppression, tribulation, abattement profond ou immense chagrin. Tout un programme. Jésus nous annonce lui-même. Il nous dit lui-même que notre chemin sur la terre ne sera pas facile, que ce sera dur, que nous serons éprouvés. Et parfois, c'est vrai que on peut se dire, mais est-ce normal la souffrance chez un chrétien ? Et j'aimerais vous lire quelques versets par rapport à ça. Le premier, dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 13. « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous. » Car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Pierre nous rappelle que la souffrance fait totalement partie du chemin du chrétien. C'est totalement normal de la ressentir. Acte 14, verset 22. Il fortifiait les disciples et les encourageait à demeurer fermes dans la foi, car Jésus leur disait, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Cette souffrance fait partie de ce chemin. Ce chemin, c'est la sanctification. C'est la sanctification dans laquelle nous sommes appelés à devenir des pierres précieuses, des diamants pour Jésus. Je suis allé regarder un petit peu justement cette fabrication du diamant. Comment est-ce qu'un diamant naît ? Qu'est-ce qu'un diamant ? Un diamant, c'est comme une mine de crayon. C'est bizarre, hein ? Une mine de crayon, ça casse facilement. C'est du graphite. C'est très fragile. Mais le diamant est un des matériaux les plus solides. Pour rayer un diamant, il faut un autre diamant. Il faut environ une pression de 50 tonnes par centimètre cube et une température de quelques milliers de degrés pour que ce graphite se transforme en diamant. Vous voyez comme le graphite est éprouvé avant de devenir magnifique, pur et solide. Et au même titre que ce diamant, nous aussi nous avons à être pressés, oppressés et chauffés à blanc parfois pour devenir ces diamants. Pour devenir solide, pour se fortifier dans la présence de Dieu. Dans 2 Timothée 2, versets 3 et 4, « Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. » Je vous apprends rien, nous sommes en guerre. Nous vivons au quotidien un combat contre les ténèbres, contre Satan et ses démons qui veulent vous faire tomber. Satan ne veut pas que nous nous réunissions aujourd'hui. Satan ne veut pas que vous serviez et que vous adoriez le Dieu très haut. Et pour ça, il va mettre tout en œuvre. Tout en œuvre. Chaque chose à quoi vous pouvez penser pour diviser, pour séparer, pour faire mal, pour faire chuter, Satan y a déjà pensé bien avant. Et il a même essayé de le mettre déjà en place. Ce combat, ça peut provoquer des fatigues, des chocs, des traumatismes. C'est normal, on prend des coups, on prend des coups. Mais nous faisons équipe avec notre officier céleste, Jésus-Christ, qui nous commande, qui est à la tête de son armée, qui est à la tête de l'Église. Et c'est par Jésus-Christ que nous remportons la victoire. Où voulons-nous placer notre satisfaction ? Dans notre propre petit chemin ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir faire pour me faire plaisir ? Ou est-ce que j'ai envie de donner satisfaction à la personne qui s'est donnée entièrement pour moi, à Jésus-Christ, qui a souffert lui-même avant que moi, je souffre. Parfois, on a plutôt tendance à vouloir aller vers les petits plaisirs, parce que c'est vrai que cette souffrance, c'est pas agréable et ça fait peur. Mais rappelons-nous vraiment qui est Jésus. Qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que la souffrance que l'on vit nous aujourd'hui n'est pas moindre par rapport à celle que lui a souffert? J'aimerais juste, il y a quelque chose vraiment qui me parle ces derniers temps, c'est nous pouvons éprouver cette souffrance, mais nous avons Dieu à chaque moment, à chaque seconde avec nous, en nous. Jésus, pendant 3 heures, il a été privé de la présence de Dieu. Ces 3 heures, je pense que ça a duré une éternité. Moi, personnellement, je ne serais pas capable d'y survivre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Colossiens 1, verset 24. « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. » Paul nous rappelle que dans notre service pour le Seigneur, nous aurons, de par l'opposition de Satan, des afflictions, des oppositions dans le ministère. Nous pouvons être montrés du doigt, nous pouvons être la risée des gens. Qui sont ces gens? Qui sont les chrétiens? Quand vous sortez en évangélisation, les gens que vous avez en face n'ont pas forcément entendu parler de Dieu. Alors parfois, oui, parfois tout vous avez vraiment, vous vous retrouvez devant une personne qui est là, qui était là, qui était ouverte et qui avait besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais parfois, vous vous retrouvez devant des gens, soit qui vous ignorent. L'ignorance, quelquefois, ça peut blesser. Mais vous pouvez être insulté aussi. Par la grâce de Dieu, rarement molesté. Mais souvent, quand vous parlez de prière, de donner votre vie à Jésus, de l'amour de Dieu pour vous, les gens vont voir un petit peu ce qui se passe dans le monde et ils vont se moquer de vous en disant que c'est une belle utopie, mais ce n'est pas la réalité des choses. Tout ça parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, comme je ne le connaissais pas avant. Mais si la souffrance a une place dans notre vie, elle a eu une place dans la vie de beaucoup de personnes avant, et notamment dans la Bible. J'aimerais prendre quelques exemples. Je ne vais pas vous exposer tous ceux qui ont souffert dans la Bible, parce que dans ce cas-là, je pense qu'on y sera encore la semaine prochaine. Mais juste quelques-uns. En commençant par Adam et Ève. Adam et Ève qui ont été privés de la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont péché, ils ont désobéi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert une porte. Satan est venu, leur a mis le doute, et eux ont ouvert la porte. Et ils ont désobéi. Ils ont mangé du fruit. Quelles conséquences a eu ? Eh bien, privé du jardin d'Éden et de la présence de Dieu. Faisons attention aussi aux portes qu'on ouvre. Souvent, on peut se dire, ouais, j'ai un petit truc là, je sais, le Seigneur, il n'aime pas quand je fais ça, mais ah, c'est vite fait un petit coup là. Allez, un petit compromis, un petit compromis. Chaque compromis, c'est une porte que vous ouvrez. C'est une porte que j'ouvre. Et Satan s'engouffre dans ses portes. Et une fois que la porte est ouverte, la souffrance prend toute la place aussi. Mais Dieu, dans sa bonté, est là. Et au même titre que Adam et Ève ont été déchus et que le péché est entré dans le monde, au même titre, Jésus est venu et a vaincu la mort, a vaincu le péché, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être libres et nous puissions avoir cette grâce de prendre part à l'éternité. Abraham lui-même a été éprouvé dans la patience pendant des années et des années. Quelque chose d'extrêmement important pour lui, avoir une descendance, lui était impossible. Abraham aussi n'a pas eu totalement confiance et a fait un compromis avec Agar, d'où la naissance d'Ismaël. Mais Dieu, dans sa bonté, ne lui a pas enlevé sa bénédiction. Parce que Abraham a eu la foi et a persévéré, même s'il a chuté, Isaac est venu au monde. Isaac, le fils de l'Alliance. Et même une fois qu'Isaac est venu au monde, qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham ? De sacrifier son fils. Imaginez, pour la plupart d'entre vous, vous êtes parents, imaginez si le Seigneur vous demandait d'égorger votre fils aujourd'hui. Est-ce que ça ne provoquerait pas un choc, une souffrance dans votre cœur ? Imaginez la souffrance d'Abraham qui a attendu pendant des dizaines et des dizaines d'années la venue d'Isaac. Enfin, il est là et le Seigneur lui dit « Rends-le-moi ». Waouh ! Mais qu'est-ce qu'a fait Abraham ? Il était prêt à perdre ce qu'il avait de plus cher sur la terre parce que le Seigneur lui a demandé. Job aussi a été éprouvé dans son corps. Pourquoi ? Job, on nous dit, c'était un homme pieux, quelqu'un qui révérait le Seigneur. Mais Satan est venu pour l'éprouver, parce que Satan veut nous faire chuter. Et ce n'est pas le péché de Job qui a fait qu'il a été éprouvé, mais c'est juste les attaques de Satan. Il y a quelques notions qui sont intéressantes. La première, c'est que avant que Satan puisse nous atteindre, il doit se présenter devant l'Éternel. L'Éternel peut permettre des souffrances par moment. Mais il place une limite. Une limite, cette limite, c'est la limite au-delà de laquelle nous ne pouvons pas supporter l'épreuve. Et une fois que le Seigneur a placé cette barrière, Satan ou n'importe quel démon ne peut pas la franchir. Personne ne peut passer au-delà de la volonté de Dieu. Mais Job, malgré tout ça, a grandi. Cette souffrance lui a permis de grandir, même si parfois il ne comprenait pas. Même s'il a été mal entouré, des gens qui se moquaient de lui, il était un peu la risée, c'est parce que tu as péché, était humilié. Mais qu'est-ce que Job a dit à la fin ? Seigneur, avant j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui je t'ai vu, mon œil t'a vu. Est-ce pas vraiment une grâce et un privilège quand nous avons la chance de voir la face, de contempler la face de Dieu ? Tous ces jours où nous nous approchons de lui, qu'on ait péché avant ou pas, Dieu ne nous rejette pas. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Job ? Job a été rétabli comme avant, avec deux fois plus qu'il n'avait. Il en est sorti grandi, spirituellement et matériellement aussi. On pourrait aussi parler de Moïse, de David, qui ont été éprouvés par leur ministère, parce que le Seigneur le demandait, qui ont dû tout abandonner. Moïse, qui faisait partie de la famille de Pharaon par adoption, qui a dû quitter tout ça pour se retrouver dans le désert et au final être à la tête du peuple d'Israël. C'était une grâce, mais aussi quelle souffrance il a enduré avec tout ça. On peut parler de David qui a été oint comme roi d'Israël, mais qui a dû s'enfuir devant Saül. Aussi, quelle humilité de perdre sa vie comme ça. Et Jésus, parlons de Jésus, celui qui a tout enduré, qui a été éprouvé comme nous pouvons l'être et même bien au-delà. Cet homme qui a tout supporté, toute souffrance, toute tentation, toute épreuve pour nous ouvrir le chemin. Il nous incite aussi à nous charger de notre croix, pour nous encourager à persévérer dans cette souffrance que nous pouvons endurer sur ce chemin qui est caillouteux, qui peut faire mal, qui peut blesser. Mais Jésus lui-même est passé par là. Les disciples, pour leur foi, pour leur ministère, pour annoncer la bonne nouvelle, ont été éprouvés, humiliés, torturés, emprisonnés, crucifiés, décapités. Suivre Jésus, le servir, c'est aussi accepter les souffrances qui vont avec. Mais si souffrance il y a, si le Seigneur permet ça, le Seigneur va nous donner des armes aussi pour tenir bon. J'aimerais commencer par Éphésiens 6, 14 à 15. Je ne vais pas vous la relire, c'est l'armure du chrétien. Tout le monde la connaît si bien. Nous devons nous en revêtir chaque jour et tenir ferme, tenir ferme. 2 Corinthiens 1, verset 7. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Dans chaque verset qu'on a lu, il y a une part de souffrance, mais aussi une part de bon. Dans 1 Pierre qu'on a lu avant, car vous participez aux souffrances de Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra. Cette souffrance appelle à un bonheur qui va nous venir. Le bonheur qui va nous venir, c'est en espérance. Apocalypse 2, verset 10. « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. » Apocalypse 21, verset 4. « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Le Seigneur nous promet la délivrance, la guérison, la fin des souffrances, la joie éternelle, le bonheur éternel. Tout ça, nous l'avons en espérance. Qu'est-ce que l'espérance ? Hébreux 11, verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Verset 2. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Nous ne voyons pas encore toutes ces bontés que le Seigneur nous a promis. Nous voyons une partie, nous avons un avant-goût. Il nous donne la joie, il nous donne sa paix. Il nous donne des choses aussi qui nous font tenir, une famille, des amis, des frères et sœurs. On a vu ça tout à l'heure, on l'a chanté, l'unité. L'unité est importante, l'unité est primordiale. Nous sommes tous un appui pour la personne qui est à côté. Nous sommes l'Église, l'édification de Christ. Nous sommes chacun une pierre individuelle de cet édifice. Mais les pierres, si vous les en posez juste comme ça, parallèles, vous les poussez, elles tombent. Nous sommes entrecroisés, nous sommes liés par ce ciment qui est le Saint-Esprit, qui nous fait tenir, qui nous aide à nous tenir les uns aux autres pour que cet édifice dont Jésus est la pierre principale puisse tenir bon quand la tempête se met à souffler. Nous avons part au réconfort. Ayons cette espérance que nous verrons Jésus dans sa splendeur, que quand il reviendra, nous serons élevés avec lui, nous passerons l'éternité avec lui, dans la joie et le bonheur parfait. Parfait. Est-ce que ça ne vaut pas quelques souffrances sur cette terre ? Quelques souffrances accompagnées ? On va faire un petit retour sur Jean 16, au verset 33. Jésus nous dit « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. » La paix en moi. La paix en Jésus. C'est Jésus qui nous donne sa paix ici sur terre. Approchons-nous quotidiennement. Cette paix, pardonnez mon grec, erénée, qui veut dire harmonie, concorde, sûreté. Je travaille dans le milieu aéroportuaire et la sûreté, c'est quelque chose de très important, de primordial. C'est verrouiller toute sortie ou entrée possible, tout contrôler, tout ce qui rentre et qui sort, pour que justement aucun problème ne puisse se passer à l'intérieur. Nous devons accepter cette sûreté, nous devons recevoir cette sûreté du Seigneur, cette sûreté qui va fermer ses portes, ses compromis. Mais ça ne vient pas de nous, nous ne sommes pas assez forts pour fermer ces issues. Mais notre relation avec Dieu, notre persévérance et notre sanctification va petit à petit fermer ses portes et nous aider à voir le Seigneur dans toute sa splendeur. Ça veut dire aussi prospérité. Et il y avait une petite petite phrase que j'ai beaucoup aimée, un état de tranquillité nationale. C'est génial, moi je me vois déjà dans le sud, sous le soleil, avec le petit cocktail, tranquille, vraiment la tranquillité. Approchons-nous de Jésus, il est notre rocher, notre refuge et notre forteresse. Hébreux 2, verset 18, « Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. » Et ça, ce n'est pas qu'en espérance, c'est au quotidien. Jésus est au quotidien avec nous. On va revenir encore une fois au verset 33 de Jean 16. « Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Jésus a vaincu le monde. Ça, c'est acquis. Jésus est mort et ressuscité, il a été élevé. Ça, c'est acquis, ce n'est pas d'espérance. Ça, ça a été fait une fois pour toutes. Il n'y a pas à y revenir. Jésus a dit aussi qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Acceptons sa présence. Parfois, quand nous sommes au creux de la vague, nous ne voyons pas cette main qui tend constamment vers nous. Mais elle est là. Saisissez-la. Saisissez-la. Laissez le Seigneur vous remonter. Pour conclure, j'aimerais aussi qu'on se rappelle ce verset. C'est un des versets, c'est bizarre, hein, c'est un verset que j'ai entendu quand j'étais tout petit, c'est un des seuls versets que je me souvenais 20 ans plus tard. Dans Romains 8, verset 28, « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Le plan divin sur cette terre, on vient de le voir, englobe, il y a une partie de souffrance. Mais cette souffrance nous fait grandir. À chaque fois qu'un disciple ou un héros de la foi a souffert, c'était pour sa sanctification, pour son édification, pour grandir. Si le Seigneur permet, la souffrance ne vient pas de Dieu. Si le Seigneur permet des souffrances dans nos vies, ce n'est pas juste pour que nous souffrions, mais c'est pour qu'on puisse grandir. Grandir et en priorité grandir dans la foi. Grandir avec Dieu, grandir par Dieu, car c'est de lui que vient notre édification. N'oubliez pas que Dieu seul nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Et l'espérance, c'est cette ferme conscience que l'on a reçue ce qu'on ne voit pas encore. Vous souffrez, vous n'êtes pas dans la paix. Vous êtes tiraillé, vous êtes dans le feu. Ben moi, je vous dis, croyez que vous en êtes sorti. Parce qu'en espérance, vous en êtes sorti. Ayez cette conviction, cette foi. Recevez cette paix, cette érène que Jésus vous donne. Psaume 73, verset 28. « Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. » Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. Au final, où se trouve notre bonheur ? Nous avons parlé de souffrance, parlons rapidement de bonheur. Notre bonheur est en l'Éternel, se confier en l'Éternel, rester ses témoins, témoigner, le témoignage est important. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie ? Se parler l'un à l'autre, venir témoigner les cinquièmes dimanches, c'est aussi faire partager les bénédictions et les souffrances à nos frères et sœurs pour encourager ou pour se faire encourager. Cette communion fraternelle que le Seigneur veut que nous ayons, cette relation avec lui. Mais notre bouclier, notre rocher, notre temple, c'est avant tout le Seigneur Tout-Puissant. Lui seul peut nous sortir de ces moments de détresse et de souffrance. Pour finir, j'aimerais vous faire partager une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson de Luc Dumont qui vraiment m'a beaucoup aidé dans des moments un petit peu difficiles où j'étais découragé, où je voulais abandonner et baisser les bras. Eh ben, j'écoutais cette chanson et le Seigneur s'en est toujours servi pour me remonter, me booster. Si vous la connaissez, vous connaissez les paroles, chantez-la, chantez-la. Et si vous ne la connaissez pas, concentrez-vous et écoutez attentivement ces paroles.
facile d'abandonner et de me laisser dériver. Ce vent violent m'a épuisé. Tu sais, pourtant j'ai essayé. Ce que je vois à l'horizon est l'ennemi de ma vision. Une bataille dans mes pensées, tout en moi voudrait arrêter. Mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermer les yeux pour voir plus loin. Il y a des jours à oublier et des saisons d'obscurité. Lorsque mes rêves semblent s'effacer comme un dessin sur une plage, faire demi-tour sans faire d'histoire, m'évaporer comme un brouillard. Non, je n'ai plus la force ni l'espoir de faire un pas vers ma destinée. Mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher.
Je vous invite à vous recueillir dans la prière. Oui, Seigneur, merci parce que nous savons que la souffrance et les épreuves ne viennent pas de toi, mais tu les permets. Merci parce que nous avons cette espérance qui est réelle, que tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, aide-nous lorsque la souffrance vient, lorsqu'elle est là, lorsque l'épreuve vient, de regarder à toi, de nous approcher toujours plus de toi, d'être toujours plus dans ton intimité, afin d'être vainqueur. Oui, merci Seigneur, parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Merci parce que c'est une réalité que tu as avec nous, à côté de nous, en nous. Merci pour ta présence qui nous accompagne à chaque instant. Sois loué, sois béni Seigneur, parce que si tu permets la souffrance, c'est pour que nous en sortions toujours plus que vainqueurs. Amen. Amen. Merci pour ce qu'on a partagé ce matin. Nous vous faisons part ce matin du décès de Marlise Dugon, la maman de Jacques. Nous pensons bien à vous, père d'une maman, une belle maman, une grand-maman. C'est toujours un moment particulier, un moment difficile, mais un moment aussi dans lequel Dieu veut vous accompagner. Et nous pensons à vous, nous vous portons dans nos prières. Que Dieu vous accompagne pendant ce temps de séparation, ce temps de deuil. Qu'il vous bénisse aussi. Donc la cérémonie d'ensevelissement aura lieu mercredi 25, mercredi prochain, à 14h, 14h au temple de Nyon. L'inhumation au cimetière de Clémenty, donc à Nyon, sera suivie d'une collation au centre sportif de Colovray. Donc je pense que chacun est le bienvenu. Je vous laisse prendre connaissance du programme de la semaine. Jeudi, on a la reprise de la chorale. Dimanche prochain, on a un culte, évidemment, comme tous les dimanches, mais c'est un culte particulier, c'est un culte de partage. Donc, un culte qui va être constitué de ce que chacun va apporter. Et on vous invite à préparer ce temps, préparer ce moment, pour partager une expérience qui nous rappelle la réalité de la présence de Dieu à nos côtés. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ça aussi qui est important, qu'on veut partager pour rendre gloire aussi à notre Dieu. Et comme chaque cinquième dimanche, on vous propose aussi un repas ensemble après. Alors on vous propose un repas canadien, donc chacun amène de quoi partager, et c'est aussi plus convivial, plus sympa. Donc réservez aussi ce temps à passer ensemble. Samedi prochain, à Bellegarde, nos amis Mennonites reçoivent les Light Clubbers. Donc, il y a un grand panneau au fond, des petits flyers d'invitation. Là aussi, c'est ouvert. Le 5 et le 6 mai, donc le premier week-end de mai, on n'aura pas de culte ici. Et le samedi soir, donc, on aura un concert avec Philippe de Courroux à 20h30 à la salle de la Chenaille à Echenevé. Et le dimanche, on aura le culte en commun aussi à Echenevé, qui sera non pas à 10h30, mais à 10h. Je vous rappelle aussi les flyers pour le club d'été. Vous avez entendu, il y a beaucoup d'inscriptions, mais il y a encore un petit peu de place. Donc, prenez des flyers, distribuez-les. C'est important aussi que les enfants qui s'inscrivent aussi soient vraiment dans le plan de Dieu, pour qu'ils soient préparés aussi pour cette semaine à passer ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui, il y a des travaux qui se font dans le bâtiment. Pour l'instant, ça se faisait surtout au niveau des salles d'école du dimanche. On fait une pause un petit peu de ce côté-là. Et puis, on va commencer des travaux dans le sous-sol. Donc, on a le projet de créer un WC-douche au sous-sol, et puis des installations techniques aussi. Mais pour ça, il faut casser la moitié du sol de la cave. Donc, c'est un gros boulot. Et puis l'équipe a besoin de main-d'œuvre, a besoin d'encouragement aussi et d'aide. Donc pour samedi prochain, on aura un marteau-piqueur, enfin plusieurs marteaux, un gros compresseur, ça va bosser. On a besoin d'un coup de main. On aurait besoin de 3 personnes fortes pour évacuer les gravats le matin. Alors à partir de 9h, comme ça nous permet de commencer à faire les gravats avant. Donc à partir de 9h, 3 personnes. J'ai pas regardé ce matin, mais il me semble qu'il y avait personne d'inscrit encore sur la petite feuille qui est au fond. Donc il y a une feuille où on peut s'inscrire. C'est important de s'inscrire parce que comme ça, ça nous permet d'anticiper, de savoir aussi qui c'est qui sera là. Et puis on va faire toute la journée. Donc il y aura un repas qui sera servi ici au sous-sol. Et puis on aurait besoin aussi de deux personnes pour du nettoyage à partir de 17h30. C'est important quand même de laisser les locaux ensuite propres. On va faire le maximum pour ne pas trop salir, mais on sait qu'il y aura toujours de la poussière qui va s'infiltrer. Un coup de nettoyage sera vraiment indispensable. Et puis le samedi d'après, on aura aussi besoin de trois personnes le matin pour évacuer, pour creuser, pour continuer le travail, quoi. Et puis là, on aura besoin aussi de deux personnes pour nettoyer, mais dans l'après-midi à partir de 14h. Donc voilà, réfléchissez bien si vous avez de la disponibilité. Ce sont des super moments, bien sûr, il faut bosser, mais ce sont des chouettes moments parce qu'on est ensemble, il y a une bonne ambiance et tout. Et voilà, inscrivez-vous sur la feuille qui est au tableau d'affichage au fond. Si vous avez aussi des informations personnelles à passer, donc Nancy est toujours à disposition pour remettre à jour le CEP Télécom, donc le fichier dans lequel on partage nos informations. Oui, Nancy ? Voilà, il manque pas mal de jeunes. Voilà. Voilà, donc les jeunes qui êtes majeurs, vous aurez un endroit à part. C'est bien, mais pour le coup, il faut donner vos informations. Voilà, donc regardez avec Nancy. Est-ce qu'une information aurait été oubliée ? Oui, Pascal. Merci Pascal. Oui. Que Dieu continue aussi à vous accompagner, à vous bénir aussi dans ce temps particulier. Je vous invite à vous lever, je vous lis encore deux versets dans Hébreux 1. Dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.